BW. Vue d'Allemagne.
En Allemagne, il y a 100 ans, Adolf Hitler publiait son manifeste Mein Kampf. C'est une œuvre crue dans laquelle il dévoilait ses fantasmes violents. Son héritage idéologique reste dangereux à ce jour. On le verra en seconde partie d'émission. Nous serons à Barcelone. Les habitants se mobilisent dans la deuxième ville espagnole pour lutter contre le sud-tourisme. C'est le grand reportage de cette émission. Au micro, Relu Koubakin, Willkommen. Bienvenue. Adolf Hitler est vivant, du moins sur Internet. Quiconque recherche Hitler sur la plateforme X de Elon Musk tombera sur des entrées vieilles de quelques secondes seulement. Sur Internet, on trouve des photos, mèmes, des croix gammées, des slogans qui font allusion à Adolf Hitler. Antisémites, racistes, complotistes, antidémocrates et partisans d'Hitler répandent leur poison idéologique partout. En Allemagne, en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Inde. Le dictateur allemand est pourtant mort depuis 80 ans, mais le meurtrier de masse continue de gagner beaucoup d'argent aujourd'hui. Les librairies d'antiquités du monde entier tirent profit des anciens exemplaires du pamphlet d'Hitler Mein Kampf. Une édition allemande coûte environ 250 euros. La version espagnole Mi Lucha coûte plus de 300 euros. Et l'édition anglaise My Struggle coûte environ 600 dollars sur des sites en ligne. Le livre est disponible à un prix très modique sur les marchés égyptiens et indiens. Ce livre est aujourd'hui considéré comme un manifeste dans lequel Adolf Hitler exposait sa vision du monde fanatique, son antisémitisme meurtrier, son mépris de la démocratie, de la diversité sociale, et ce, 8 ans avant son arrivée au pouvoir en 1933. Dans Mein Kampf, il élève les Allemands au rang de race supérieure. Et bien avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, il rêvait d'une germanisation de l'Europe de l'Est et de l'expulsion forcée de millions de personnes. Otmar Plöckinger est historien autrichien et co-éditeur de l'édition éditée de Mein Kampf.
Le thème de la lutte fait partie du titre, et c'est là que réside tout le racisme. Plus le plus fort l'emporte, plus la race la plus forte l'emporte. Mais même dans les combats individuels, dans la lutte pour les postes, pour les fonctions, celui qui l'emporte est celui qui a la plus grande volonté, le moins scrupuleux, celui qui est, au sens large, de la meilleure race ou a les meilleures compétences.
Lors de sa publication le 18 juillet 1925, le livre ne fit pas l'effet d'une bombe. Adolf Hitler était un putschiste déchu qui venait de passer plus d'un an en prison pour haute trahison. Son mouvement national-socialiste était modeste et manquait d'influence politique significative en Allemagne et en Autriche. Il était menacé d'extinction politique. À l'époque, le marché du livre regorgeait de polémiques nationalistes et de mémoires de prisonniers. Le livre d'Hitler manquait également d'originalité. Son contenu fut une déception, même pour nombre de ses partisans, explique Otmar Plöckinger.
Il y a ce passage célèbre de la presse allemande qui a également provoqué une vive colère chez Hitler. Je cite « Nous sommes engagés dans la lutte nationaliste depuis 40 ans et voilà qu'un jeune putschiste débarque et veut nous expliquer ce qu'est la pensée politique. » Il y a certes des commentaires positifs, on le respecte pour son autodidactie, pour avoir tout appris par lui-même, mais sur le plan idéologique, personne ne prétend qu'Hitler ait apporté quoi que ce soit de nouveau au débat.
Néanmoins, Mein Kampf devint un best-seller et fut un succès financier pour Adolf Hitler. Des millions d'exemplaires ont été vendus jusqu'en 1945.
DW.
La particularité de l'œuvre d'Hitler réside dans le fait que, contrairement à d'autres dictateurs, il dévoile ses intentions dans Mein Kampf, il ne dissimule pas ses fantasmes violents. Dans l'édition révisée, les éditeurs analysent, il annonce résolument la guerre, une guerre future sera une lutte pour la survie où toute considération d'humanité et d'esthétique s'effondrera. Adolf Hitler a ainsi annoncé sa tyrannie et il n'est pas arrivé seul au pouvoir. Lors des élections de 1933, plus de 17 millions d'Allemands ont voté pour Adolf Hitler et son parti national-socialiste des travailleurs allemands, ouvrant la voie à son accession au pouvoir. S'en est suivie une guerre déclenchée en Europe et le massacre des Juifs d'Europe. Le régime nazi et ses partisans ont combattu avec une brutalité effroyable tout ce qu'ils déclaraient ennemi du prétendu peuple allemand. Avec le suicide d'Hitler le 30 avril 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, 8 jours plus tard, le système de gouvernement d'Hitler s'est effondré. Depuis, les Allemands ont juré plus jamais ça. Nicolas Lélé travaille à la Fondation Amadeu Antonio contre l'extrémisme de droite et l'antisémitisme basé à Berlin.
J'ai l'impression que cette tendance s'est quelque peu atténuée ces dernières années, dans le sens où des néo-nazis s'expriment à nouveau plus ouvertement. On voit par exemple régulièrement des graffitis de croix gammées sur des sites allemands de commémoration. Nous savons, grâce à ces sites, que des écoles des zones rurales, par exemple, sont désormais presque toujours fréquentées par des élèves portant des marques d'extrême droite ou des slogans d'extrême droite sur leurs t-shirts.
L'antisémitisme refait surface, constate encore sur la DW l'historienne britannique Lisa Pine. Selon elle, non seulement l'antisémitisme d'Adolf Hitler a survécu, mais aussi son hostilité à la démocratie. Les jeunes extrémistes de droite en particulier sont devenus plus violents ces dernières années. 100 ans après la publication par Adolf Hitler de son pamphlet « Incendiaire Mein Kampf », de nombreux tabous entourant sa haine inhumaine ont disparu. Beaucoup de spécialistes pensent que les réseaux sociaux en sont aussi responsables. Ceci serait parfaitement adapté à la double stratégie de l'extrême droite telle qu'utilisée par Adolf Hitler et son mouvement fasciste, briser à plusieurs reprises les tabous sociaux avec des messages radicaux pour ensuite se présenter comme bourgeois et conciliant ailleurs. Nicolas Lélé de la Fondation Amadeu Antonio appelle donc à un engagement sociétal beaucoup plus important avec les plateformes de médias sociaux.
On attend dire, on va parler à ces néo-nazis, on les accepte, c'est l'expression de leur mécontentement. La leçon à tirer est la suivante. L'extrémisme de droite et le racisme ont besoin de limites claires, de lignes rouges claires. Ces idées doivent être socialement bannies et ceux qui les défendent doivent aussi en être conscients.
Merci à Hans Pfeiffer pour les sons. Vous écoutez toujours le magazine Vue d'Allemagne, place à présent à la seconde partie. C'est un secteur en pleine croissance qui transforme peu à peu le quotidien des habitants des grandes villes. Le tourisme bat des records en Espagne, mais il provoque de plus en plus de nuisances. Le malaise monte parmi la population qui sort régulièrement dans la rue pour revendiquer un droit à la ville. Le fer de lance de cette contestation, c'est Barcelone en Espagne. Sur place, le reportage de Henri Delaguerri.
C'est un dimanche au cœur de l'été, sous un soleil de plomb, des manifestants armés de pistolets à haut défilé dans les rues de Barcelone. Le cortège s'arrête devant un hôtel. Touristes, rentrez chez vous, scande la foule. Certains recouvrent la devanture d'autocollants pendant que d'autres lancent des pétards et des fumigènes. À Barcelone, comme dans plusieurs villes du sud de l'Europe, la question immobilière a mis le feu aux poudres en 10 ans. Les prix des loyers ont grimpé de 68%. Les habitants sont peu à peu chassés de leur ville. C'est ce qui risque d'arriver à Joan, 50 ans. Il vit dans le centre-ville.
Ça fait 25 ans qu'on vit dans notre appartement. Et depuis 2 ans, nous sommes dans un processus d'expulsion. Il veut qu'on parte pour faire des co-living. Notre appartement, c'est un appartement de 80 mètres carrés, une terrasse, et ils veulent transformer ça en 4 chambres. Voilà, une famille, 25 ans. C'est notre cas, mais en fait, c'est un quartier qui devient de plus en plus vide. Il n'y a plus de voisins. Dans notre bâtiment, on connaissait tout le monde. Actuellement, on connaît 2 familles. Le reste, c'est des gens qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent. C'est la folie.
Et ce sont autant les touristes que les expatriés, toujours plus nombreux, ceux qu'on appelle aussi parfois les nomades digitaux, qui sont montrés du doigt. Les slogans ciblent Airbnb, les bateaux de croisière et les compagnies aériennes. Maria, 25 ans, regrette la transformation de son quartier.
J'ai vu les quartiers beaucoup changer. quand j'étais petite, il y avait beaucoup plus de petits commerces de légumes et fruits, de quincailleries. Et maintenant, tous les commerces sont complètement focalisés sur le tourisme.
Ça veut dire que vous vous connaissez moins entre voisins ?
Oui, bien sûr, il y a beaucoup plus d'appartements touristiques. Bon, tu te sens un étranger dans ta propre ville, tu te sens déraciné.
Le surtourisme a également des conséquences dans la gestion de l'espace public avec des lignes de bus saturées et des habitants qui ne peuvent plus utiliser leur transport en commun. L'hôpital public est lui aussi mis à mal par l'afflux de touristes en été. Mais pour Conchita, retraitée, les responsables de cette situation, ce ne sont pas les touristes, mais bien les autorités.
Ce n'est pas qu'on est contre le tourisme, mais il faut l'organiser ce tourisme d'une telle façon qu'il n'expulse pas ces gens. Parce que si ça arrive, les touristes n'aimeront pas Barcelone. Barcelone est telle qu'elle est parce qu'elle est vivante avec ses habitants.
Alors face à cette grogne citoyenne, les pouvoirs publics réagissent. Depuis plusieurs années, Barcelone fait la chasse aux Airbnb illégaux. Cet été, dans les grandes rues de la ville, il y a des affiches rédigées en anglais pour demander aux touristes de faire preuve de civisme. Mais dans le même temps, le tourisme représente un secteur essentiel de l'économie espagnole. À Barcelone, c'est 18% des emplois. L'équilibre est donc difficile à trouver et les autorités envoient des messages contradictoires puisqu'on vient d'apprendre que l'aéroport de Barcelone serait bientôt agrandi. Cette colère est d'ailleurs loin d'être généralisée. Ces manifestations agacent Marco, par exemple. Il gère des restaurants près de la plage.
Bon, le tourisme, c'est super important parce que nous, on a 50 employés et il y en a plusieurs avec des familles. Donc, le tourisme est fondamental pour nous. L'été, ça nous donne la possibilité de vivre l'hiver. Je trouve ridicule qu'une ville qui vit du tourisme, elle soit contre le tourisme. On perd des clients à cause de la mauvaise publicité et c'est terrible.
L'impact économique des touristes est très important. Il permet aussi de financer certains projets grâce à la taxe de séjour, l'une des plus chères d'Europe. Bruno Allais, consultant en hôtellerie.
Une part de la population se sent envahie par ces touristes, mais il ne faut pas oublier cet impact économique et ce que le tourisme nous apporte. Les touristes payent une taxe, ce qu'on appelle la taxe touristique, et cette taxe est aussi réinvestie dans la propre ville. Un des exemples clairs, c'est les écoles à Barcelone ont des airs conditionnés qui n'étaient pas là il y a 2 ans, par exemple.
Et le secteur du tourisme a parfois l'impression d'être le bouc émissaire d'une politique du logement défaillante en Espagne. Mais si les autorités ne parviennent pas à trouver le bon équilibre et garantir une forme de droit à la ville pour ses propres habitants, à Barcelone, Venise ou Lisbonne, le malaise risque de s'accentuer. Henri de Laguerry, à Barcelone pour la Deutsche Welle.
C'est la fin de cette édition de Vue d'Allemagne, à écouter et réécouter sur le site internet, via les réseaux sociaux et sur la plateforme de podcast de votre choix. Alles Gute, tschüss!